Don Quichotte de la Manche par Miguel de Cervantes, édition abrégée d'après la traduction de Florian. Première partie, chapitre 1er. Du caractère et des occupations du fameux Don Quichotte de la Manche. Dans un village de la Manche vivait un de ces gentilshommes qui ont une vieille lance, une rondache grouillée, un cheval maigre et un lévrier. Un bouilli, le plus souvent de vache que de mouton, une vinaigrette le soir, des œufs frits le samedi, le vendredi des lentilles et quelques pigeonneaux de surplus le dimanche, emportaient les trois quarts de son revenu. Le reste payait sa casaque de drap fin, ses chausses de velours avec des mules pareilles pour les jours de fête et l'habit de gros drap pour les jours ouvriers. Sa maison était composée d'une gouvernante de plus de 40 ans, d'une nièce qui n'en avait pas 20 et d'un valet qui faisait le service de la maison, de l'écurie, travaillait aux champs et taillait la vigne. L'âge de notre gentilhomme approchait de 50 ans. Il était vigoureux, robuste, d'un corps sec, d'un visage maigre, très matinal et grand chasseur. Il s'appelait Don Quixada. Lorsque notre gentilhomme était oisif, c'est-à-dire les trois quarts de la journée, il s'appliquait à la lecture des livres de chevalerie avec tant de goût, de plaisir, qu'il en oubliait la chasse et l'administration de son bien. Cette passion devint si forte qu'il vendit plusieurs morceaux de terre pour se former une bibliothèque de ses livres, parmi lesquels il préférait surtout les ouvrages du célèbre Félicien de Silva. Cette prose, claire et facile, qui presque jamais n'a de sens, lui paraissait admirable. Il était seulement fâché de ne pouvoir deviner ce qu'elle voulait dire et se donnait la torture pour comprendre ce qu'Aristote lui-même aurait bien eu de la peine à expliquer. Il ne laissait pas encore d'être un peu étonné des prodigieuses blessures que Don Belianis faisait et recevait. Quelques habiles que fussent les chirurgiens, il lui semblait qu'il en devait rester des cicatrices extraordinaires. Il avait souvent des querelles avec le curé du village, homme instruit et gradué à Sigance sur le plus ou moins de mérite de Palmerin d'Angleterre et d'Amadis de Gaulle. Maître Nicolas, barbier du lieu, s'était hautement déclaré pour le chevalier du soleil et n'estimait après lui que Don Galaor, frère d'Amadis, parce que, disait-il, celui-là était assez accommodant et qu'il ne pleurait pas toujours comme son langoureux frère. Enfin, notre gentilhomme, uniquement occupé de ses idées, passait les jours et les nuits à s'en repaître. Cette continuelle lecture et le défaut de sommeil lui desséchèrent la cervelle. Il perdit le jugement. Bientôt, il lui vint dans l'esprit l'idée la plus étrange que jamais on ait conçue. Il s'imagina que rien ne serait plus beau, plus honorable pour lui, plus utile à sa patrie, que de ressusciter la chevalerie errante. Le pauvre homme se voyait déjà conquérant de l'empire de Trébizonde. Enivré de ses espérances, il résolut aussitôt de mettre la main à l'œuvre. La première chose qu'il fit fut d'aller chercher de vieilles armes couvertes de rouille qui, depuis son bisaïeul, étaient restées dans un coin. Il les nettoya, les rajusta le mieux qu'il put. Mais il vit avec chagrin qu'il lui manquait la moitié du casque. Son adresse y suppléa. Il fit cette moitié de carton et parvint à se fabriquer quelque chose qui ressemblait à un casque. À la vérité, voulant éprouver s'il était de bonne trempe, il tira son épée et, le frappant de toute sa force, il brisa du premier coup tout son ouvrage de la semaine. Cette promptitude à se rompre ne laissa pas de lui déplaire dans un casque. Il recommença son travail et cette fois ajouta par-dessus de petites bandes de fer qui le rendirent un peu plus solide. Satisfait de son invention et ne se souciant plus d'en faire une nouvelle épreuve, il se tint pour très bien armé. Alors il fut voir son cheval et quoique la pauvre bête ne fût qu'un squelette vivant, il lui parut plus vigoureux que le bucéphale d'Alexandre ou le babiessa de Cide. Il rêva pendant 4 jours au nom qu'il lui donnerait, ce qui l'embarrassait beaucoup, car devant faire du bruit dans le monde, il désirait que ce nom exprimât ce qu'avait été le coursier avant sa noble destinée et ce qu'il était devenu. Après en avoir adopté, rejeté, changé plusieurs, il se détermina pour Rocinante, nom sonore selon lui, beau, grand, significatif. Il fut si content d'avoir trouvé ce nom superbe pour son cheval qu'il résolut d'en chercher un pour lui-même, et cela lui coûta 8 autres jours. Enfin, il se nomma Don Quichotte, ou plutôt Don Quichotte de la Manche, pour faire participer son pays à la gloire qu'il acquerrait. C'était quelque chose que d'avoir des armes, un demi-casque de carton, un coursier déjà nommé, un nom imposant pour lui-même. Mais le principal lui manquait encore, c'était une dame à aimer. Si pour mes péchés, disait-il, ou plutôt pour mon bonheur, je me rencontre avec un géant, ce qui arrive tous les jours, et que du premier coup je le renverse, le partage par le milieu du corps, ou enfin l'oblige à se rendre, ne me sera-t-il pas agréable d'avoir une dame à qui l'envoyer, afin que, se présentant devant elle, il vienne se mettre à genoux et lui dise d'une voix soumise « Madame, vous voyez ici le géant Cara Culiambro, souverain de l'île de Malandrini. L'illustre chevalier de la renommée ne peut jamais assez louer Don Quichotte de la Manche. Après m'avoir vaincu en combat singulier, m'a prescrit de me rendre au pied de votre grandeur pour qu'elle dispose de moi. » Oh, que notre héros fut content de lui lorsqu'il eut fait ce discours, et qu'il le fut davantage quand il eut trouvé le nom de sa dame. On prétend qu'il avait été jadis amoureux d'une assez jolie paysanne des environs, qui jamais n'en avait rien su, et ne s'en était guère soucié. Ce fut elle qui l'établit la souveraine de son cœur. Elle se nommait Aldonza Lorenzo, mais, voulant lui donner un nom plus convenable à une princesse, il l'appela Dulcinée du Toboso. C'était dans ce village qu'elle demeurait.